Métaphysique Saint-Jeudard 1984-1985, le 11 juin 1985.
Pourriez-vous préciser comment l'entelecheia est l'aspect plus subjectif, plus immanent de l'acte, tandis que l'energeia est l'aspect objectif de l'être en acte, car la division l'être en acte et l'être en puissance est une division à l'intérieur même de l'être. Et pourquoi seul l'être en acte, principe transcendant, peut permettre d'accéder à l'existence d'un être premier, acte pur. Oui, on ne dit pas entelecheia pur, bien qu'on dise pensée de la pensée. Et pensée, c'est entelecheia. Bon, il y a tout un point de vue, c'est très intéressant, ça c'est sûrement un point de vue très important. Difficile, d'abord dans le langage d'Aristote, c'est très très difficile. J'ai fait l'enquête personnelle sur entelecheia et energeia dans Aristote. On voit chaque fois qu'Aristote cite entelecheia et energeia, ce serait intéressant, c'est une chose à refaire tout le temps. Alors, celui qui aurait beaucoup de courage relit toutes les œuvres d'Aristote, en soulignant chaque fois qu'il y a une entelecheia, chaque fois qu'il y a une ergeia, qui le mettent. C'est très bon de faire ça. C'est excellent. Très bon article. Et puis, qu'il essaie de voir le sens d'une entelecheia et d'une ergeia. Et il s'apercevra que c'est très, très difficile, à partir de là, d'induire quelque chose. Parce qu'au fond, Aristote a un langage extrêmement souple. Et cependant, il y a sûrement une distinction. Ce n'est pas pour rien qu'on invente un mot. Energeia n'est pas un mot inventé par Aristote. Entelecheia est un mot inventé par Aristote. Or, je crois qu'Aristote est suffisamment astucieux, comme philosophe, pour n'inventer des mots que des mots qui sont des métaxus. Vous voyez ce que je veux dire ? Il invente touti eneinain. Il invente entelecheia. Il invente touti eneinain. Nous l'avons essayé de le comprendre avec le livre Zeta. C'est pour saisir le hiatus qui existe entre la forme et la substance. Chez Platon, entre Eidos et Ousia. Et c'est ce que Tricot continue de dire dans sa traduction. Tricot dit que l'Ousia, c'est la fin. Tricot. C'est ça. Et le tricot de l'Ousia, c'est la fin. Vous voyez bien. Donc, alors à ce moment-là, on voit comment Eidos et Ousia, il faut saisir la distance. Comment va-t-il saisir la distance? Il va inventer tout I, N, E. Puisque la confusion des deux provient d'un manque de distinction entre l'intelligibilité et ce qui est. Si je confonds intelligibilité et ce qui est, je confonds forme et osia. J'identifie les deux. Et à ce moment-là, je suis dans un certain ontologisme, pour ne pas dire idéalisme, j'aime mieux dire ontologisme. Je suis dans un certain ontologisme. J'identifie l'intelligibilité, ce qui est. Et donc, Tout ce que je pense, tout ce que je connais, c'est la réalité. C'est un peu ennuyeux, ça, parce qu'on casse la tête ou le nez quand on fait ça. Non ? Alors, pour distinguer l'intelligibilité de ce qui est, et montrer que l'intelligibilité n'est que la propriété de ce qui est, je mets ce mot, je formalise l'intelligibilité en mettant le totième. La définition revient à l'acuité. Tout de suite, non ? Je définis une chose, je saisis son intelligibilité, je définis la chose. Quand je définis la chose, je saisis son intelligibilité, mais en saisissant son intelligibilité, je sais que ce n'est pas ce qui est en tant qu'être, en tant qu'il est saisi. Alors le Totien est saisi pour saisir la distance qui existe entre la forme et l'ousia. C'est pour ça que je dirais la forme est Totien, l'ousia est Totien, vous voyez, mais d'action. Il touche les deux. C'est très vrai. Mais je ne peux pas dire que l'ousia, c'est le Totien Neinan. Je peux dire que l'ousia a une cuidité au sens premier, principal, mais ce n'est pas la cuidité, puisque l'ousia se distingue de la quantité. L'ousia se distingue de la qualité. L'ousia n'est pas la qualité, n'est pas la quantité. Or, la qualité et la quantité ont un Totien Neinan. Oui, tout de suite. Donc je suis là dans l'ordre de l'intelligibilité et non pas dans l'ordre de l'être. Donc si Aristote invente ce mot, c'est pour essayer de distinguer, c'est pour essayer de montrer, de manifester, il thématise l'intelligibilité. Il la met devant nous pour qu'on comprenne toute la différence qui existe entre l'intelligibilité et ce qui est. Ça, c'est très important à comprendre. Qu'est-ce qu'il va faire pour la métaphysique et pour le don, par l'ousia, dépasser toute la forme. L'ousia est source de toutes les formes, mais l'ousia n'est pas la forme. Mon activité artistique agit sur la forme, mais mon activité artistique n'agit pas sur l'ousia. Seul Dieu, dans un jugement de sagesse, seul Dieu agit sur la forme. Ce serait peut-être un jugement de sagesse, on dit intéressant à montrer, hein, parmi les jugements de sagesse que nous devons voir, poser celui-là, et rappelez-le-moi. Seul Dieu agit sur l'ousia. Moi, j'agis sur la forme. Je modifie une forme. C'est pour ça que l'Église tient tellement à la transsubstantiation. Tandis que transsignification, je peux faire ça. Peut changer la signification d'une chose. Transfinalité, je peux encore changer la signification de la finalité d'une chose. Je peux faire ça. Vous voyez, quand vous mettez un instrument dans un musée, un silex magnifique, vous le mettez dans un musée. Derrière une vitre, on touche. Alors, il y a des faits. Vieille hache, vieille, n'importe quel instrument, vous le mettez. Qu'est-ce que vous le faites quand vous le mettez dans un musée ? Transsignification. Le musée fait une transsignification. Puisque cet objet d'utile qu'il était, il devient objet d'admiration. C'est évident, vous le mettez dans le musée pour que tout le monde admire. De bête, c'est parce qu'elle est très vieille qu'elle est intéressante. Quand elle n'était pas vieille, elle n'était pas intéressante du tout, tout le monde s'en servait. On passe de l'utile à l'admiration. Transsignification. Transfinalité. Et Malraux réfléchit beaucoup, vous savez bien, sur le musée. C'est très intéressant. C'est très très intéressant. L'homme a inventé des musées. faut une civilisation très fatiguée pour inventer des musées. En Afrique, il n'y a pas encore de musées. C'est les Européens qui inventent le musée. Ils inventent le musée, mais sans fatiguer. Alors, c'est une civilisation fatiguée qui a peur de se perdre parce qu'elle ne vit plus assez. C'est curieux, c'est très très intéressant parce que ça fait comprendre ce que c'est que la transsignification et la transfinalité. Ce n'est pas la transsubstantiation. Quand vous mettez un objet qui était fait pour l'utile dans un musée, vous ne le transsubstantiez pas. Non, ça a la même substance. C'est la même réalité. Il y a Dieu qui peut transsubstantier parce qu'il agit sur nos yeux. Nous, nous agissons sur la forme. Et la forme a une signification et la forme a une certaine finalité. Alors, en agissant sur la forme, en mettant une forme derrière une grille, n'est-ce pas ? En mettant un fil de fer en disant interdit de passer, vous trans-signifiez. Vous mettez une clôture. Trans-signifiez. Trans-finalisez. C'est curieux, ces choses-là. On n'y pense pas. On fait ça, mais c'est vrai qu'un musée fait ça. Dès que vous mettez un objet derrière une vitrine, vous lui donnez une signification nouvelle. Un soulier derrière une vitrine, ce n'est pas la même chose qu'un soulier quand vous l'utilisez. Quand vous l'avez porté pendant un certain temps, vous ne pouvez plus le mettre derrière une vitrine. Si vous êtes un saint, on le mettra derrière une vitrine. De nouveau, les souliers. Alors ça c'est extraordinaire, oui. Et vous lui donnez une trans-signification, une trans-finalité. Vous voyez donc que l'homme peut faire ça, Dieu seul peut transsubstantier. Alors, je dis ça, c'est parce que on n'a pas vu assez la différence entre trans-signification, trans-finalisé et transsubstantier. On va inventer ici l'exercice. Et le point de vue de l'être en bas. La dynamisme, la puissance d'exercice. La puissance d'exercice, je peux dire. L'exercice comme tel. L'opération vitale. L'exercice, l'opération vitale, la vision. On a confondu Platon, confondu. On va inventer un mot, entelekeia, pour montrer la différence qui existe entre l'exercice et l'être enfant, et l'être en acte. Oui. Totiene, ça fait mieux, une fois que vous avez ça, c'est très très distingué. Et vous comprenez tout de suite. Toti enena, le entel ekeia. Entelos. Donc il est dans la fin. Et enkeia, l'ayance dans la fin. Alors, l'ayance dans la fin, on voit très bien ce que c'est. L'ayance dans la fin, c'est quand vous contemplez. L'ayance dans la fin, c'est l'exercice finalisé. Un exercice final, c'est pas seulement l'exercice, c'est pas seulement l'opération vitale, c'est finalisé. Donc c'est dans la fin. C'est le ronronnement du chat auprès du feu. Et entelekeia, ça vous fait très bien comprendre ce que c'est, symboliquement, n'est-ce pas ? Alors vous comprenez que entelekeia est inventé par Aristote pour montrer la finalité dans l'exercice. Et la finalité dans l'exercice vous permet de comprendre l'attraction de la fin. Et donc vous permet de comprendre d'une manière opérative, d'une manière vitale, d'une manière immanente, ce qu'est l'être en fond, l'être en acte. C'est encore, vous voyez, c'est le même système, c'est thématisé. On thématise l'être en acte dans son exercice. L'être en acte finalisé. télévisée, l'exercice. Il y a quelque chose d'analogue. Et c'est ça qui est très astucieux, car Aristote a inventé deux métaxues. Il a inventé deux métaxues pour que nous puissions saisir parfaitement l'ousia comme principe, comme arché, comme principe, et saisir l'être en acte comme fin. C'est ça qu'il faut essayer de saisir progressivement, lentement. Parce que notre intelligence a de la peine d'arriver à saisir, au-delà d'Elintelekeia, l'être en acte. Alors c'est très juste qu'il y a un aspect subjectif beaucoup plus grand dans Elintelekeia. C'est l'opération vitale, c'est donc l'immanence. J'en ai l'expérience. J'ai l'expérience de Elintelekeia. Tandis que je n'ai pas l'expérience de l'être en acte. Alors, l'expérience, je peux aller jusqu'au bout, vous voyez, une philosophie qui resterait dans l'expérience de l'immanence, donc la phénoménologie, sans atteindre l'acte, pourrait donner l'intellekeia. Donc, dans la phénoménologie, quand on parle de l'acte, en réalité, c'est l'opération vitale. La personne est l'acte, hein, un livre connu. Eh bien, la personne, c'est en réalité, l'acte s'est pris comme opération vitale, comme opération propre de la personne. La personne se transcende dans son opération qui atteint sa fin. Vous vous transcendez quand vous êtes finalisé. Mais faites attention, quand vous êtes finalisé, c'est encore vous qui vous transcendez. Et donc, c'est l'attraction de l'être en acte du bien sur vous. Et alors, c'est la possession, si vous voulez, c'est la possession personnelle de l'être en acte. L'être en acte est possédé par moi, et qu'ayant l'avoir. Il est possédé par moi dans l'opération vitale. Donc voilà, je crois ce que nous pouvons saisir dans la pensée d'Aristote. Il invente entelekeia pour mieux saisir l'être en acte, energeia. L'energeia au niveau de l'être. L'energeia au niveau de l'être se saisit par l'intermédiaire de l'entelekeia. Et non pas l'inverse. Parce que certains diraient Entelekeia, c'est plus parfait que l'energeia. C'est ce que dit Heidegger. Pour lui, c'est Entelekeia qui est le plus parfait. C'est comme si on disait que le Totiainainai était le plus parfait. Le Totiainainai, c'est pas le plus parfait, c'est l'ousia, c'est le principe qui est le plus parfait. Et c'est la même chose pour Entelekeia. L'Entelekeia, c'est pas ce qui est le plus parfait, c'est ce qui m'amène à saisir l'être en acte. Donc, je crois qu'on peut très bien dire que ce qui est dit ici, que l'entelekeia, c'est bien cet aspect subjectif, plus immanent de l'être en acte, de l'acte. Et le point de vue l'être en acte, c'est l'aspect objectif, mais en comprenant bien objectif. Au niveau métaphysique. Alors, pourquoi seul l'être en acte, principe transcendant, peut permettre d'accéder à l'existence d'un être premier? Vous comprenez tout de suite, j'espère, maintenant. C'est que l'immanence vitale me laisse toujours dans l'immanence vitale. Et ne me permet pas de saisir ce qu'est transcendant. Seul l'être en acte, qui est télos, qui est au principe, peut être saisi sans aucune imperfection. Tandis qu'au contraire, L'entelekeia qui est toujours saisi avec l'exercice immanent ne peut jamais se séparer de ce mode personnel humain. Et donc, il ne me permet pas d'atteindre l'existence d'un être premier. Exactement comme le tutti elenal ne me permet pas de saisir l'être premier, Dieu n'est pas une quidité, mais Dieu est substance. Dieu n'est pas intellectuel, il est l'être en acte. Parce que Dieu, je ne saisis qu'à travers les principes propres, l'au-delà du principe propre, des principes propres qui me servent pour aller jusqu'à lui, et je le saisis comme les réalités premières. Je ne peux pas, à partir de mon expérience immanente, saisir Dieu. J'aurai l'expérience de Dieu. Il faut donc dépasser mon expérience immanente pour qu'à travers mon expérience immanente, je saisisse le principe. Il y a une induction entre deux. L'induction, c'est le passage de deux. Je m'appuie sur Entelekeia pour saisir l'être en acte. Je m'appuie sur le Totienenal pour saisir l'Ousia. Mais il y a un dépassement. C'est pour ça que je dis que c'est un métaction. Et c'est très beau qu'Aristote ait inventé deux mots à l'égard des deux métaxus de l'induction. Et ça confirme que Aristote sait très bien qu'en induisant l'acte et en induisant l'ousia, il fait quelque chose d'original. C'est-à-dire de nouveau. On n'a jamais fait avant lui. Et c'est pour ça qu'il invente deux mots. Deux tremplins. Ce sont deux tremplins, deux métaxus. Qui nous aide à saisir ça. Deux sycomores. Il faut se placer dessus pour saisir le principe, pour aller le plus loin possible dans l'ordre de l'immanence, le plus loin possible pour dépasser un saut périlleux. Alors l'entelekeia me permet de saisir l'être en acte comme principe. Bon. Ceci, c'est la pensée d'Aristote. Je crois dans ce qu'elle a de plus profond. Évidemment, c'est très très difficile de le dire aujourd'hui. Très très difficile de dire ça aujourd'hui. Parce que on regarde uniquement, vous voyez, matériellement Aristote. On regarde son discours et on ne regarde pas sa pensée. Alors, si on regarde que son discours, Aristote ne dit pas ça, donc on dit vous interprétez. C'est évident que j'interprète. On interprète toujours, parce que la philosophie n'est pas au niveau du langage, elle est au niveau de la pensée. Or, la pensée se traduit par le langage, forcément. Surtout quand on écrit. Ça se traduit par le langage, ça se traduit par l'écrit. Donc il faut interpréter la parole pour rejoindre la pensée. Et en faisant ça, je suis dans l'interprétation propre d'Aristote qui nous dit que l'écriture et que la parole est symbolon du pâté de l'âme, c'est-à-dire du concept. Or, Aristote dit très, très justement que la philosophie est au niveau de la connaissance, c'est épistémé. Donc c'est une connaissance, ce n'est pas une parole. La philosophie n'est pas une parole. La philosophie n'est pas un symbole. La philosophie est une pensée, et une pensée parfaite, et une pensée en référence avec la réalité. Et donc, ce que dit Aristote demande d'être interprété pour saisir la pensée d'Aristote. Mais évidemment, c'est toujours très difficile parce que celui qui a compris que la parole et que l'écriture est un symbole de la pensée accepte cette interprétation. Mais celui qui n'a pas saisi, qui croit que la philosophie c'est uniquement la parole, alors à ce moment-là, on ne peut regarder Aristote que du point de vue historique et que du point de vue philologique. C'est ce qu'on m'a dit l'autre jour à Fribourg. On ne peut regarder Aristote que d'un point de vue historique et que d'un point de vue philologique. Je ne peux plus regarder Aristote en tant que philosophe. Oui, c'est terrible ça. À ce moment-là, Aristote est mort. si je ne parie regarder Aristote que qu'un point de vue philologique et que d'un point de vue historique, Aristote est mort. Un philosophe comme philosophe demande d'être regardé comme philosophe. Puisque le philosophe se dit l'ami de la sagesse. Et donc il doit être regardé en tant qu'il est l'ami de la sagesse. Autrement, vous ne le regardez que d'une façon secondaire. Vous regardez son œuvre. Et vous voulez regarder uniquement son œuvre d'un point de vue historique. Il a pondu cette œuvre à telle date. Je ne peux pas dire autre chose. Dans tel contexte historique, je ne peux pas dire autre chose. Il l'a fait avec tel langage. Et je précise son langage. Et sa pensée, je l'ignore complètement. Donc le philosophe, comme philosophe, est mort. C'est important de comprendre ça, parce que c'est... C'est l'effort que nous faisons d'essayer de comprendre Aristote comme philosophe. Oui, en essayant de comprendre justement comment il a saisi des principes propres. Alors, continuons. Je vous disais la dernière fois que ce problème de l'acte devait d'abord se regarder du côté du langage. Essayer de comprendre comment le langage implique le nom et le verbe. Le verbe est le symbole de l'action. Et le verbe être exprime l'exister. Au-delà de l'action, il y a l'exister. Le vieil adage scolastique, operatio sequitur esse. Operatio, l'opération, l'action suit l'exister. Il n'y a pas d'opération sans exister. Alors, ce serait très intéressant pour étudier dans les diverses langues, de voir qu'il y a dans des langues où, de fait, on n'a jamais exprimé l'exister à l'état pur. On est resté à l'action. Ce qui est du reste normal. La première chose qu'on voit, c'est l'action. C'est la chose principale, hein, au point de vue pratique. Vous n'allez pas demander, en premier lieu, est-ce que ça existe? Non. Vous voyez, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utilisable? Est-ce que c'est mangeable? Est-ce que je peux m'en servir pour chauffer ce bois? Est-ce que je peux m'en servir pour faire telle ou telle chose? C'est l'action qu'on regarde en premier lieu. Puis, si vous avez une réflexion un peu poussée, vous essayez de comprendre qu'au-delà de l'action, il y a l'existence. Il y a le verbe être. Alors c'est très intéressant de voir la formation du verbe être dans les différentes langues. Et ça, je crois qu'au point de vue philologique, il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant à regarder. C'est uniquement d'ordre descriptif. C'est très intéressant de regarder le verbe être tel qu'il s'est formé dans la langue grecque et dans la langue latine. Pas tout à fait la même chose. Je sais que les philologues ont des opinions diverses, alors je ne veux pas m'aventurer là-dedans, mais c'est très intéressant d'étudier, quand vous avez un bon philologue, demandez-lui toujours, et dans les différentes langues, regardez la formation du verbe être. Dans quelle mesure s'est-il séparé de l'action, et dans quelle mesure est-il lié à l'action? Alors, ça importe peu, hein. On dira dans une langue, le verbe être n'est pas séparé de l'action. Très bien. La philosophie n'est pas au niveau du langage. La philosophie est au niveau de la pensée. Il suffit que dans une seule langue, il y ait une distinction entre le verbe être et le verbe action. Or, ceci existe en latin, ceci existe en grec, ceci existe en hébreu, ceci existe dans notre langue. C'est suffisant. Même si dans d'autres langues, parce que c'est toujours ce qu'on vous fourre entre les pattes, hein, dans d'autres langues, la distinction n'existe pas. Il suffit que dans une seule, vous voyez, c'est un signe. Le langage est un signe. Je ne fais pas la philosophie du langage. Je me sers du langage comme signe pour pouvoir aller plus loin. Or, je crois qu'on peut, dès qu'on étudie le langage, la philosophie grecque. Vous voyez, quand Jésus dit « Ego eimi »,« Je suis », quand il est dit dans l'Ancien Testament « Je suis », que Dieu dit « Je suis », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça me suffit, vous voyez, ça me suffit pour me dire qu'il y a là quelque chose, qu'il y a là un problème. Si je suis croyant, c'est suffisant. Il y a là un langage particulier. Dieu ne dit pas « je deviens ». Non. Je sais très bien, ce serait très, très merveilleux pour des quantités. Hein, si Dieu dit « je deviens ». Quand Dieu dit « je viens », ça ne veut pas dire « je deviens ». « Je viens », c'est par rapport à nous. Il s'approche. Il vient. Dieu ne dit pas « je deviens ». Il dit au contraire « non mutant ». Je ne change pas. Je suis. Et en grec, Jésus dit « je suis ». Ça pose le problème, vous voyez. Je dis ça parce que c'est toujours intéressant de voir par derrière, au-delà de notre langage, la révélation qui dit « je suis ». Alors, si vous avez une certaine philosophie du verbe, ça vous dit quelque chose et vous y réfléchissez. Si vous n'avez aucune philosophie du verbe, si vous n'avez qu'une philosophie de la substance, du nom, c'est très bien avoir la philosophie du nom, mais c'est pas suffisant. Le langage n'est pas fait que de noms. Le langage est fait de noms et de verbes. Et il n'y a pas un seul jugement sans le nom et le verbe. Pas un seul jugement. Tous les jugements impliquent nom et verbe. Et le lien entre les deux est Pierre est intelligent. C'est fini. Pierre est où je suis. Prenez des cartes. Il dit cogito ergo sum. Je suis. Alors quand on dit je suis, il y a le nom. Pierre. Et quand j'ai dit cogito, il n'y a que le verbe. C'est amusant, du reste, hein, au point de vue du langage. Il n'y a que le verbe. Et donc, pour Descartes, le verbe est avant le nom. C'est bien évident. Et pourtant, c'est toute la philosophie des idées. Et les idées, ce n'est pas le verbe. Vous voyez cette espèce de contradiction entre le langage et sa philosophie. C'est très ennuyeux, ça. Quand notre philosophie est en contradiction avec notre langage, je ne sais pas ce qu'on fait alors, à ce moment-là. Il y a une espèce de dichotomie en nous constante. Chaque fois que vous parlez, vous niez votre philosophie. Et c'est vrai, c'est ennuyeux une philosophie qui ne colle absolument pas avec le langage. Alors vous avez à ce moment-là une espèce de contradiction permanente. Le langage n'est pas la philosophie, mais le langage est le signe. Or, je vois que dans le langage, il y a le nom et le verbe. Et normalement, selon le langage habituel, le nom est antérieur au verbe, puisque le verbe se dit du nom. Le verbe est relatif au nom. Operatio sequitur esse. Esse, c'est pas le verbe, c'est l'infinitif pris comme une substance. Puisque le propre de l'infinitif, alors c'est très curieux, c'est très intéressant de voir que le verbe, dans sa forme d'infinitif, a un autre nom. Alors est-ce que le nom, de temps en temps, se fait verbe ? Vous voyez que le nom, le verbe, de temps en temps, se fait nom. Le nom contamine le verbe. Il le contamine d'une façon telle que de temps en temps, le verbe prend la forme d'un nom, l'infinitif. Marcher. Essai. Est-ce que le nom prend de temps en temps la forme du verbe? Réfléchissez bien. Non. Le nom, il est nom. C'est pour ça qu'on fait la philosophie du nom et pas du verbe. C'est bien que la philosophie du nom, on peut faire la philosophie du nom, mais on ne fait pas la philosophie du verbe. Et le verbe est relatif. Alors c'est très intéressant de savoir qu'au point de vue philosophique, le nom signifie quoi? Le nom signifie la personne. La personne signifie la substance. Et le verbe alors? Ah, voilà. Est-ce que le verbe est réductible à la substance ou est-ce que le verbe exprime quelque chose d'autre? Quelque chose qui ne peut pas être réduit au nom. Il peut se contaminer. De temps en temps, le verbe perd sa valeur de verbe. Le nom n'est pas l'infinitif. C'est la mort du verbe. L'infinitif. Il meurt pour devenir comme un nom. Et alors à ce moment-là, parce qu'il meurt comme devenant un nom, il n'est plus le verbe. Le verbe a quelque chose d'unique. Et qu'est-ce que le verbe implique? Il dit l'action. L'action entelekeia. C'est entelekeia, l'action. C'est normal. Hein? C'est l'action. Et l'action vient s'ajouter au nom. Alors, il faut donc faire une philosophie de l'action. Ça s'est fait, hein? Blondel. Philosophie de l'action. Alors, qu'est-ce que c'est que la philosophie de l'action? Le verbe implique ça. Il faut donc découvrir quelque chose qui est irréductible à la substance signifiée par le verbe. Si le langage exprime ma pensée, si le langage est là un signe sous le volume de ma pensée, il doit donc y avoir quelque chose d'autre. Au-delà de la personne, au-delà de la substance, il doit y avoir quelque chose d'autre. Il doit y avoir une philosophie de l'action. Qu'est-ce que c'est que cette philosophie de l'action? Je pose un point d'interrogation. Le langage est un signe, hein, c'est pas plus que ça, mais c'est un signe très intéressant. Et dans le verbe le plus simple, c'est être. Le verbe le plus simple, c'est être. Vous voyez, l'être, c'est lorsque et se contamine en substance. Oh, c'est extraordinaire. Alors la métaphysique, vous voyez, la métaphysique de l'être, hein, comme c'est terrible. C'est la perte de « et » qui devient « être », qui se contamine, qui devient substance. Tellement notre intelligence a toujours un besoin de comprendre selon un mode substantiel. Et c'est vrai, ça. C'est très vrai. Mon intelligence a besoin de stabilité. Or, la substance, c'est la stabilité. Le vœu de stabilité, hein, c'est la substance. C'est pas l'action. C'est très curieux, ça. C'est extrêmement intéressant d'essayer de comprendre un peu notre langage, si vous voulez, au point de philosophie, de comprendre qu'est-ce que ça vient s'ajouter, ça. Le verbe, qu'est-ce qu'il ajoute à ce besoin de substantifier les choses. J'ai toujours le besoin de s'en substantifier. Et alors, c'est peut-être la raison pour laquelle je dis blanc, blancheur. Blanc, c'est relatif au mur. Blancheur, ah. La tribu se substantifie et devient blancheur. Vous voyez, encore le même besoin. Il n'y a pas que le verbe qui est transformé et qui est contaminé par le nom, mais tous les attributs sont contaminés par le nom. Et pour essayer de saisir alors l'attribut blanc, je dis blancheur, j'abstrais. Pour avoir de nouveau quelque chose qui va être premier. Blancheur n'est relatif à rien. Il est premier, donc il est substantié. On dira il est chosifié. je dis blancheur. Tandis que quand je dis blanc, c'est relatif à l'autre. Vous voyez cette chose curieuse, hein? L'intelligence a toujours besoin de ramener à quelque chose de fondamental et de premier. Le verbe et tous les attributs. Toujours. Tellement le nom est premier, tellement le nom a une espèce de force dans la vie de l'intelligence, quelque chose de premier. L'intelligence a besoin de ça. Elle a besoin du fondamental, de la stabilité, de quelque chose qui, sur lequel elle revient tout le temps. L'intelligence a peur. Elle a peur de quelque chose qui est second et qui est comme un dépassement du nom. J'allais dire, vous voyez, que le langage exprimant la condition de notre vie intellectuelle, c'est à cause, c'est parce que notre intelligence est une intelligence humaine qu'elle a besoin du langage. Je ne me satisfais pas de penser. On dira, mais non, il faut communiquer. Et vous communiquez par la parole. C'est parce que mon intelligence communique par la parole que dans cette communication, je touche le conditionnement de ma vie intellectuelle. Et le conditionnement de ma vie intellectuelle, c'est de toujours tout ramener au nom. C'est là où peut-être je saisis le mieux le hiatus qui existe entre mon conditionnement intellectuel et la finalité de mon intelligence. La finalité de mon intelligence, c'est justement de saisir ce qu'il y a d'ultime. Et nous verrons saisir l'acte. Et le conditionnement de mon intelligence, c'est de toujours tout ramener à un nom. Alors là, on va saisir quelque chose de très curieux qui est exprimé dans le langage. Que mon intelligence n'a pas de stabilité. Mon intelligence qui parle. Mon langage n'a de stabilité que dans le nom. Et mon intelligence, elle, va trouver sa stabilité en dépassant le nom. Et donc, je retrouve là quelque chose de très spécial, que mon intelligence n'est pas adéquate au langage. Et si je fais uniquement une philosophie du langage, je n'atteindrai jamais la finalité. Je resterai dans mon conditionnement. Et mon conditionnement me ramènera toujours au nom. Alors, il y a un petit problème là, que j'évoque tout simplement, qui est très intéressant aussi. C'est que, au point de vue philosophique, nous savons très bien que le nom et le verbe expriment le jugement. Mais nous avons dit qu'avant le nom et le verbe, il y a l'appréhension. Or, l'appréhension, c'est saisir les attributs. Saisir blanc. Alors, comment se fait-il que l'appréhension saisit l'attribut? Et comment se fait le passage de l'attribut au nom? L'attribut, c'est homme. L'attribut, c'est blanc. Le nom, c'est Pierre. Or, l'appréhension saisit homme et le jugement saisit le nom. Vous voyez bien qu'il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant à saisir. Il faut y penser ici, parce que c'est le lieu où il faut y penser. Comment se fait ce passage, vous voyez, de l'attribut au nom? Et le verbe, c'est autre chose que l'attribut. J'ai donc trois éléments qui constituent le langage. L'attribut, le verbe et le nom. L'attribut, toute attribution, les prédicaments sont des attributs, les dix prédicaments sont des attributs, c'est les qualités, blanc, intelligent. Alors ça, c'est l'appréhension. Et le jugement, le nom et le verbe. Donc, au niveau proprement philosophique, je ramène le langage au nom au verre, à la pluie, et j'ajouterai aux conjonctions. Donc, et aussi, tout ce qui vient s'ajouter, ces petites choses qui viennent coller deux bouts de phrases ensemble, je dis et. Et ce n'est ni un attribut, ni un nom, ni un verbe. Donc, amen, amen. Amen, amen. Est-ce que c'est quoi, amen, amen? Est-ce que c'est un attribut? Non. Est-ce que c'est un nom? Non. Est-ce que c'est un verbe? Non. Amen. Qu'est-ce que c'est? Point de vue du langage, hein, vous voyez, qu'est-ce que ça signifie quand on dit ça? C'est quand même important pour nous, parce que c'est quand même un de ces mots que nous aimons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ces conjonctions, quand vous dites « et »,« aussi »,« donc », ce n'est ni un attribut, ni un nom. Alors, résumez un tout petit peu, vous voyez, comme philosophie du langage. Vous résumez là des choses qui montrent la vitalité de l'intelligence et le conditionnement de mon intelligence. Mon intelligence implique des appréhensions, mon intelligence implique des jugements, elle implique des raisonnements. Et elle implique cet amen. Quand vous dites amen, vous vous arrêtez. Vous êtes béni entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles.